Voilà, c'est un grand plaisir de me retrouver devant vous pour partager des choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps et de voir autant de têtes connues. Grâce au TGV, j'arrive directement depuis chez moi. Le seul inconvénient, c'est que je suis arrivé à 10h05 et donc j'ai dû fendre la foule sans prendre le temps de saluer tous ceux que j'aurais eu plaisir à saluer, donc je vous saluerai après. J'ai quand même eu le temps de saluer ma nièce, qui était tout étonnée que son oncle, c'était le Frédéric de Coninck dont on parlait aux annonces. Donc, suivre Jésus-Christ dans un monde incertain. Nous vivons actuellement dans un monde incertain, c'est évident. Théo vient de le rappeler, et l'incertitude financière nous est apparue comme particulièrement évidente ces dernières semaines. Mais chaque année a son lot d'incertitudes. Les années précédentes, il y a eu des incertitudes, par exemple, sur une épidémie mondiale. D'abord, il y a eu le virus Ebola, puis il y a eu le SRAS, puis il y a eu la vache folle, la grippe aviaire. Voilà. Il y a des incertitudes sur les ressources en combustible, les incertitudes sur le changement climatique. Il y a des incertitudes sur les délocalisations. Et puis, il y a des incertitudes plus domestiques qui concernent davantage chacun de nous. Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais être reconnu à ma juste valeur dans mon travail? Que vont devenir mes enfants? Est-ce que je vais me faire agresser dans la rue? Est-ce que je vais me faire cambrioler? Est-ce que j'ai bien fermé le gaz en partant de chez moi? Excusez-moi. Est-ce que des loupards vont brûler ma voiture? Est-ce que les chrétiens devraient se tenir à l'écart de ce genre d'incertitude? Normalement, oui, normalement. Normalement, et Théo nous a relu ce texte, ce beau texte de Matthieu 6, ne vous inquiétez pas, normalement. Mais en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui s'inquiètent quand même de ces choses-là. Et puis d'ailleurs, il m'arrive, moi aussi, de m'inquiéter pour ce genre de choses. Alors évidemment, on repense et on y repensera, et c'est bien, à nos ancêtres anabaptistes, à leur sérénité, à leur simplicité de vie, puis on se dit qu'on a fait fausse route. Je vais attendre quelques secondes que mon concurrent ait fini de parler. Oui, je pense que c'est utile de méditer l'exemple de nos ancêtres anabaptistes. En même temps, il me semble qu'il y a un piège qu'ils n'ont pas toujours évité, pas toujours, enfin, c'est celui du légalisme. Et dans bien des cas, le respect d'une certaine simplicité de vie, c'était pour eux une condition sine qua non pour rester membre du groupe. Ce n'était pas toujours un choix personnel. Mais d'ailleurs, bon, c'est une difficulté du sujet, honnête, de toute façon. En dehors même de l'exemple des anabaptistes qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure, je pense que c'est des questions, ces questions de l'inquiétude, de la gestion des biens, de la gestion de notre vie quotidienne. C'est des questions où, dès qu'on les aborde, on a tendance très vite à tomber dans le légalisme. C'est-à-dire, on devrait faire ci, il faudrait faire ça, je ne devrais pas laisser couler mon robinet pendant que je me brosse les dents, etc. Bon. Il y a dans les journaux, en dehors même, y compris les journaux non chrétiens, il y a toute une liste de choses qu'on devrait faire et que, bien sûr, la plupart des lecteurs ne font pas. Je laisse ma télé en veille si vous voulez tout savoir. Bon. On lit le journal, on culpabilise, mais ça fait peu d'effet pratique. Et moi, j'aimerais essayer de traiter de cette question par un autre bout, de prendre cette question, justement, d'une manière, si possible, non légaliste. Je ne suis pas sûr d'y réussir, mais je voudrais essayer. Et donc, je voudrais partir d'un autre bout, c'est qu'il y a une peur, au fond de tout ça, il y a une peur à la base de toutes ces inquiétudes, c'est la peur de tout perdre. La peur de tout perdre, de se retrouver vide ou nu. Je connais cette peur. Et Dieu sait que nous avons cette peur. Et Dieu ne méprise pas cette peur. C'est une peur qu'il considère comme normale. Il ne nous reproche pas d'avoir peur de ces choses-là. Quand on m'exhorte au dépouillement, ça arrive, j'ai déjà entendu ce genre de sermon, j'ai l'impression qu'on me demande de me dévêtir tout de suite. Ça ne me fait pas envie. Enfin, je ne sais pas, ça vous fait peut-être envie, moi ça ne me fait pas envie. Ça ne me fait pas envie, dit de cette manière-là. Pour moi, la sérénité face à l'inquiétude, l'acceptation d'un certain risque, c'est une conséquence d'autre chose. Ce n'est pas quelque chose auquel on arrive directement. C'est une conséquence d'autre chose. Et quand la Bible parle d'un renoncement ou d'un dépouillement, elle commence toujours par parler d'un plein, d'une abondance qui nous est donnée. Alors, je vous en donne quelques exemples. Psaume 81, le verset 9. Bon. Écoute, mon peuple, je t'en adjure. Israël, si tu m'écoutes, il n'y aura pas chez toi de Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu différent. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Ça, j'aime bien ça. Hein. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Voilà un bon début. Bien, bon, texte plus connu, Ésaïe 55. Vous tous qui êtes assoiffés, venez. Venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du pain, mangez. Venez, buvez sans argent, sans paiement, du vin, du lait. Et alors après, la question, à quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Après, d'accord. À quoi bon dépenser, mais d'abord, mangez, venez, buvez. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Travaillez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez donc, écoutez-moi, mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Bon, vous avez compris que je suis gourmand, ok. Ou bien, Éphésiens 5, verset un tout petit peu étonnant. D'ailleurs, on ne s'en étonne pas suffisamment. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit. Étonnant comme rapprochement quand même. Soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Autre forme d'ivresse. Bon. Et puis finalement, cette affirmation, je vais m'arrêter là dans la liste, cette affirmation eschatologique de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 4, « Nous ne voulons pas nous dévêtir, nous ne voulons pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement sur l'autre afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est pour moi ça, le bon mouvement. D'abord, nous revêtir, et puis ce qui est mortel est englouti par la vie. Il y a donc un mouvement toujours le même qu'on retrouvera à peu près systématiquement dans la Bible. Je vous ai lu comme ça différents passages. D'abord, nous laisser remplir par Dieu. Et ensuite, alors oui, nous pouvons faire face au risque de perdre parce que nous sommes pleins d'autres choses. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous de cette manière-là aujourd'hui. Dans tous ces domaines dont on a parlé au début, la crise financière, les épidémies mondiales, la peur de perdre son travail, etc. Dans tous ces domaines, ça veut dire quoi se remplir? Et après, vous verrez que la question de l'incertitude va s'estomper toute seule. Alors j'aimerais vous proposer cette formule. Comment est-ce qu'on se remplit? Eh bien, on se remplit en œuvrant pour le royaume de Dieu. Alors, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, j'ai l'air de parler de manière assez générale, je vous donnerai. Allez, j'y viens. Hein. Allez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour l'instant, je reste encore quelques minutes sur ces questions générales. On se remplit en œuvrant pour le royaume de Dieu. Et pour moi, le verset pivot que je voudrais suivre ce matin, je l'avais déjà cité dans l'article de... Le royaume de Dieu est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Voilà. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a découvert, il le cache et dans sa joie il s'en va, il met tout en vente et il achète ce champ. Il peut mettre tout en vente parce qu'il a ce trésor. Il y a du plein, il y a ce trésor, il y a de la joie. Dans sa joie, il met tout en vente et il l'achète. Et c'est ce qui fait souvent défaut quand on réfléchit à ce thème des richesses. Qu'on aborde, évidemment, comme une tristesse. Il faudrait me séparer de ci, il faudrait me séparer de ça. Mais là, il y a une richesse nouvelle qui est tellement grande que les autres perdent considérablement de leur valeur. Et c'est d'ailleurs la même idée qu'il y a dans ce verset qu'on a chanté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste. Tout le reste vous sera donné par-dessus, mais tout le reste aussi perdra de son lustre. Alors, bon, il y a des limites à ce que je le dis tout de suite. Il y a évidemment des situations où il est normal d'être concerné par la question de la richesse. Je vous lis 1 Timothée 6, verset 8. « Si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. » Si. D'accord. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Donc je ne parle pas de ceux qui sont dans le dénuement total ou dans la misère. Eux se plaignent à juste titre. Je tiens à le dire quand même. Mais les autres. Les autres. Celui qui a trouvé le royaume de Dieu a trouvé un trésor. Celui qui a compris comment Dieu agit et qui est prêt à agir avec lui a trouvé un trésor. C'est comme ça que je traduis l'expression royaume de Dieu en français moderne. Celui qui a compris comment Dieu agit et qui est prêt à agir avec lui a trouvé un trésor. Il y a une formule parallèle, vous savez, qu'on trouve dans l'évangile de Jean. À la fin de l'entrevue entre Jésus et la Samaritaine, c'est Jean 4, verset 34. Jésus parle de nourriture, et puis il y a une sorte de confusion entre Jésus et ses disciples, et il explicite « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est la même idée, dite dans le vocabulaire de Jean. Alors, maintenant, venons-en donc aux questions, aux aspects pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, œuvrer pour le royaume de Dieu? Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples sur la manière d'œuvrer pour le royaume de Dieu et montrer comment, en œuvrant pour le royaume de Dieu, eh bien, des choses qui inquiètent beaucoup de gens, après tout, perdent de leur valeur. Alors, première chose dont je voudrais parler, œuvrer pour le royaume de Dieu dans son travail. Bon, c'est une chose que je dis régulièrement. Quand on pense à qu'est-ce que c'est être chrétien dans son travail, on pense d'abord, souvent, spontanément, à une attitude éthique. Être honnête dans son travail ou avoir l'occasion de témoigner de Dieu dans son travail. Et je pense qu'on peut se poser, et il faut se poser une autre question, à quoi sert mon travail? Qu'est-ce que je fais avec mon travail? À qui sert mon travail? Est-ce que je contribue à établir des relations justes dans mon travail, mais aussi par mon travail? Et je pense que ce que nous réalisons du matin jusqu'au soir, dans notre famille, quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage, dans notre église, dans notre travail, ou ou à titre bénévole. Tout cela, tout ce que nous faisons, ça importe à Dieu. J'ai développé ça très longuement dans « Agir, travailler, méditer, une théologie de l'action ». Je le dis juste ici en quelques mots. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, eh bien, importe à Dieu. Et on peut se poser la question, comment est-ce que Dieu agit au travers de mon travail, de ce que je fais dans mon travail? Est-ce que je suis prêt à agir en suivant Dieu par, pas seulement dans mon travail, mais par mon travail? Donc mettons tout ce que nous réalisons sous le regard de Dieu, tout ce que nous faisons. Et vu comme ça, ce que nous faisons, que ce soit payé ou pas payé, vu comme ça, je trouve que c'est une aventure passionnante de penser que je passe toute ma journée à travailler, à marcher, à suivre Jésus-Christ dans mon travail. Après, évidemment, il y a des questions. Il y a d'autres questions. Est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur dans mon travail ? Bon, à titre personnel, quand je vais dans les librairies et que je vois les livres de collègues que je trouve pas très bons, qui se vendent mieux que les miens, bon, j'aime pas trop ça. Hein. Le chercheur a ses vanités, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur dans mon travail ? Pas tout à fait. Bon. Est-ce que je vais faire carrière ? Est-ce que je vais être augmenté ? Bon, comme je suis fonctionnaire, c'est prévisible, mais enfin. Mais toutes ces questions, elles pâlissent un peu, quoi. Je veux dire, elles pâlissent un peu devant l'autre question qui est qu'est-ce que je fais par mon travail ? Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne risquent pas de se retrouver au chômage, mais qui sont dévorés d'inquiétude par ces questions. Est-ce que je vais être reconnu à ma juste valeur dans mon travail ? Est-ce que je vais faire carrière ? Est-ce que je vais être augmenté ? Beaucoup de gens, des généralistes me l'ont affirmé, viennent les voir en disant qu'ils sont en souci par rapport à leur travail. Non pas, il y en a qui ont peur de perdre leur travail, ça c'est autre chose. Ils ont juste le souci d'être, de ne plus être tout à fait dans le coup, quoi. De ne plus être vraiment reconnu. Donc beaucoup de gens s'inquiètent pour leur travail, alors que je pense, enfin moi je trouve, m'imaginant que je travaille pour le royaume de Dieu, eh bien c'est un trésor, et après ça, si mon chef ne m'aime pas, eh bien ça je suis prêt à vendre ça, hein, à laisser ça, parce que j'ai trouvé ce trésor. User de ses richesses pour le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, moi, je pense qu'il y a deux ressorts essentiels dans la consommation aujourd'hui. Le premier ressort, c'est l'imitation. C'est-à-dire, j'achète une belle voiture parce qu'il faut que je fasse aussi bien que mon voisin. Je ne vais pas quand même... Hein, bon, ça commence déjà au collège. Hein, je ne vais pas avoir la honte devant... devant les autres en n'étant pas habillé comme eux. Bon. Après ça, c'est plus cher, c'est les voitures. Bon. Je m'habille pour tenir mon rang. J'achète en bourse les valeurs qui montent. C'est un des principaux ressorts des krachs boursiers, d'ailleurs, je vous le signale. C'est les comportements d'imitation. Hein, quand les actions montent, tout le monde achète, et quand les actions baissent, tout le monde vend. Ce qui est le meilleur moyen de provoquer des chocs considérables, des anticipations positives exagérées et puis des anticipations négatives exagérées. En même temps, si vous êtes un tout petit peu malin, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Bon. L'imitation, malgré tout, c'est quelque chose de souvent rentable, qui a des conséquences catastrophiques, mais bon. Ou je copie la stratégie commerciale de mes concurrents. Ce qui aussi est la base de la stratégie commerciale. Si vous vous démarquez d'une manière radicale de vos concurrents, c'est souvent une stratégie hasardeuse, pour ne pas dire foireuse. Donc, un des ressorts essentiels de la consommation, c'est l'imitation. On imite ce qui se fait. Pourquoi ? pour rester dans le coup, quoi, pour rester, pour pas être mis à l'écart, pour pas être marginalisé. Il y a un deuxième ressort qui est la publicité, qui nous convainc qu'en fait, oui, nous sommes des êtres de manque, et ce qui nous manque, justement, hein, c'est un bijou, une eau minérale, un yaourt, qu'une fois qu'on aura consommé ça, ce que ça fait à l'intérieur se verra à l'extérieur. Voilà. Et donc, ce que ça fait à l'intérieur est censé pas juste passer dans le tube digestif, mais vraiment remplir cette espèce de manque radical. Bon, c'est pas cher, un yaourt, ça vaut pas cher. Enfin, donc, la publicité nous convainc que oui, nous sommes des êtres de manque, et j'ai juste ce qu'il faut pour combler votre manque. Vous savez, c'est comme dans Lucky Luke, hein, l'élixir du docteur, je ne sais plus comment. Comment ? Doxé, voilà. Est-ce que ça soigne ? Et donc, il soigne ça et ça. Et quelqu'un dit, et les ongles incarnés ? Et surtout, les ongles incarnés. Hein. Donc, voilà. Hein. Mais on peut se poser une autre question. Quel est le sens de ce que je fais ? À quoi ça sert d'acheter ce que j'achète ? Alors ça ne veut pas dire que, vous verrez, je vous donnerai des exemples de trucs chers que j'achète, mais à quoi ça sert d'acheter ce que j'achète ? Je vais y arriver. Bon, pour la question essentielle, donc, je préfère la prendre encore une fois de ce côté-là, c'est pas tellement est-ce que je dois renoncer à ci ou à ça ? Est-ce que ça, c'est interdit ? Est-ce qu'il ne faut pas acheter ça ? Est-ce que c'est très mal de rouler en 4x4 ? Bon. Mais ma question, c'est différent. C'est qu'est-ce que je peux faire d'utile et d'intéressant avec mon argent ? Qu'est-ce que je peux faire d'utile et d'intéressant avec mon argent ? Alors, Jésus a une idée. On la trouve en Luc 16. Faites-vous des amis avec l'argent. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, même, dit-il. Ou l'argent trompeur. Faites-vous des amis avec... Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Hein. Ça, c'est l'histoire de la parabole de l'intendant infidèle. Faites-vous des amis avec l'argent. Voilà, idée. Hein. Et moi, je pense que c'est bien de se poser cette question. Qu'est-ce que je fais avec moi ? Alors moi, j'ai des domaines où j'ai des goûts de luxe, quand même. Alors, par exemple, j'aime bien la photo. Et si vous voulez, j'ai un appareil photo, bon, je ne dis pas ça pour me vanter, hein. J'ai un appareil photo cher, hein, un truc qui coûte plus de 1000 euros, quoi, je veux dire, bon, voilà. Bon, peut-être vous trouvez que c'est idiot, hein, vous avez le droit, hein, je veux dire, bon, moi j'aime bien faire de belles photos, si vous voulez. D'ailleurs, les lecteurs de Christ Seul risquent d'en profiter bientôt, mais enfin, j'aime bien faire de belles photos. Bon, si un jour j'ai plus d'argent, je ferai peut-être autrement. Mais voilà, moi, je veux dire, c'est une sorte de domaine où, pour moi, c'est du domaine de l'art. Enfin, je suis un artiste amateur, évidemment. Mais donc, pour cette chose-là, je suis prêt à dépenser cher et acheter des objectifs. Enfin, bon, je ne vais pas faire mon budget annuel, mais disons, ça, c'est un budget, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Bon, je veux dire, vous avez d'autres passions, peut-être, pour lesquelles vous êtes prêt à dépenser de l'argent. Pour moi, c'est une passion qui a un sens, et que j'aime bien faire partager à d'autres. Ce n'est pas juste une passion égoïste, voilà, j'aime bien faire ça, je le fais partager aux autres, et je trouve que c'est... J'ai les moyens de le faire, je le fais. Bon. Par exemple, je n'ai pas envie de placer mon argent en action. Ça me plaît pas, quoi, si vous voulez, je trouve que les actionnaires sont trop rémunérés, que c'est un placement où on touche plus que le risque effectif qu'on court. Bon, en ce moment, les risques, effectivement, tout le monde les voit, mais enfin, en temps normal, on court beaucoup moins de risques que ça. Donc, je n'ai pas envie de placer mon argent en action. Je préfère faire des placements solidaires, qui me semblent plus utiles. Donc, effectivement, j'ai de l'argent en placement solidaire. Voilà. Et je suis content de faire ça. Je veux dire, je ne fais pas ça en me disant, en fait, je préférerais gagner plus d'argent. Non, je n'ai pas envie de gagner de l'argent avec des actions. Voilà, c'est comme ça. Ça ne me plaît pas. Bon. J'ai une maison en banlieue. Bon, une belle maison. Je veux dire, ce n'est pas un taudis. Je veux dire, j'habite pas en HLM. C'est une maison avec un jardin. Bon, voilà. J'aime bien cette maison. Évidemment, J'habite pas Paris. Alors l'autre jour, j'étais justement dans une réunion tout à fait sérieuse où j'essayais d'imaginer ce qui pourrait se passer si les gens, s'il y avait plus de difficultés de transport. Je dirais en fait, on pourrait travailler plus près de chez soi. Et sachant que mon lieu de travail est à Marne-la-Vallée, quelqu'un dans la salle me dit « Mais quand même, vous n'imaginez pas habiter Marne-la-Vallée ?» Alors j'en dis « J'habite Marne-la-Vallée. Hein. » Bon, après ça, l'autre ne savait plus trop où se mettre d'avoir dit une chose pareille, mais je n'ai pas envie d'habiter, si vous voulez, c'est peut-être plus prestigieux. Pour habiter Paris, il faudrait que je paye la même maison. Enfin, la même maison, c'est même pas possible, hein, mais quelque chose de plus ou moins équivalent et son jardin, que je paye 3 fois plus cher. Bon. À la limite, j'aurai les moyens, je veux dire. Bon. Mais pourquoi faire, finalement ? Enfin, je veux dire, bon. Alors, quand la bourse perd la tête, quand en ce moment, bon, on sait bien qu'on va tous y payer, ça va tout, bon, directement ou indirectement. Moi, j'ai perdu beaucoup moins d'argent que ceux qui ont des 6 caves, mais je veux dire, bon, on va tous y laisser des plumes dans cette histoire-là. Hein, je veux dire, c'est évident. Bon. Mais finalement, ça m'est égal. Je veux dire, pour ça, la question, c'est pas ça, c'est est-ce que je suis content de ce que je fais avec l'argent que j'ai aujourd'hui ? Ça, pour moi, c'est la vraie question. Est-ce que je suis content de ce que je fais avec l'argent que j'ai aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai l'impression de contribuer, à ma modeste mesure, à des actions qui sont en ligne avec le royaume de Dieu. Bon, j'ai parlé de la photo, pour moi, la beauté. L'art fait partie du royaume de Dieu. Bon. La solidarité, permettre à ceux qui sont en difficulté de s'en sortir, fait partie du royaume de Dieu. Je contribue au fonctionnement de l'Église aussi, hein, et par mon argent, je pense que ça fait partie du royaume de Dieu. Construire un lieu de vie agréable avec la maison que j'ai, bah, pour moi, ça fait partie du royaume de Dieu, à condition de ne pas garder ce lieu de vie pour soi, hein, évidemment. Bon. Et finalement, qu'est-ce que Dieu me demande de faire avec mon argent ? Ben, il me demande d'agir à la mesure de mes moyens. Et pour moi, l'argent est un moyen et n'est pas une fin en soi. Alors ça change tout, quoi, je veux dire. C'est un moyen pour réaliser un certain nombre de choses, c'est pas une fin. C'est pas une fin en soi. Évidemment, si c'est une fin en soi, là, tout de suite, hein, je vais mettre les informations télévisées tous les soirs en tremblotant, hein, évidemment. Mais si c'est juste un moyen... Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas d'argent. Bon, ok. Non, je veux dire, c'est pas toujours drôle. Mais pour ce qui est de l'inquiétude, je trouve que, en tout cas, quand on part de ce point de vue-là, moi, je suis beaucoup moins inquiet. Voilà. Alors, donc j'ai dit, premier point, œuvrer pour le royaume de Dieu dans son travail, user de ses richesses pour le royaume de Dieu, user de la création pour le royaume de Dieu, user justement de la création. Alors là, je vais donner un accent peut-être un petit peu différent. Bon, c'est un domaine où on peut agir de notre côté pour notre comportement, bien sûr, mais je pense que c'est un domaine où c'est encore plus important de faire agir le politique, surtout dans ce domaine-là, j'entends spécialement dans ce domaine-là. Bon, l'action du politique sur les régulations économiques, elle est mince. Hein, je veux dire, elle existe, mais elle n'est pas très importante. Par contre, dans tout ce qui est le domaine du respect de la création, c'est un domaine où la réglementation est extrêmement efficace. J'entends vraiment efficace. Alors, on peut ne pas aimer l'innovation technique, on peut la soupçonner. Bon, je suis désolé, je suis arrivé en TGV, hein, mais... Sinon, si j'étais venu par un autre moyen, peut-être, je sais pas quoi, en voiture à cheval, bon, je sais pas si je serais venu. Hein. Bon, moi, j'aime l'innovation technique. Bon, j'ai eu au départ une formation d'ingénieur, ça laisse des traces. Hein. Bon, j'aime l'innovation technique quand elle permet d'économiser des ressources naturelles, par exemple. Ça existe, je veux dire. Se déplacer, se chauffer... Manger du lait et du miel, pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament, manger des bonnes choses, tout ça, ça correspond au projet de Dieu, à condition que ça ne se fasse pas, que ça se fasse dans le respect des générations futures et des autres personnes habitant notre planète. Et dans tout ce domaine-là, je dirais que la réglementation, c'est un moyen puissant pour rendre rentables des innovations techniques qui économisent les ressources naturelles. C'est un moyen pour rendre rentables des innovations techniques qui économisent les ressources naturelles. Je me souviens, par exemple, la première fois qu'on a parlé des pots catalytiques, les constructeurs automobiles ont crié en disant « ça va nous ruiner ». Bon, on a rendu les pots catalytiques obligatoires, et ben voilà. Tout le monde a acheté des voitures avec pots catalytiques. Ça n'a ruiné personne. Au contraire, je pense que ça a créé de l'emploi chez les fabricants de pots catalytiques. Bon. Un constructeur automobile ne va jamais faire un moteur plus cher et moins polluant si, en faisant ce moteur plus cher et moins polluant, il est hors marché. Mais si ce moteur moins polluant est obligatoire, c'est rentable. Je veux dire, on déplace la zone de ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable par la réglementation, et c'est extrêmement efficace. Aujourd'hui, par exemple, on discute au Parlement européen d'interdire de vendre des voitures qui consomment, qui émettent plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Je ne sais plus si c'est par kilomètre ou par... Enfin, peu importe, c'est 120 grammes de CO2, je ne sais plus par combien. Enfin bon, je pense que c'est par kilomètre. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures qui sont au-delà de ça. Alors évidemment, une fois de plus, les conducteurs disent que ça va les ruiner. Les constructeurs disent que ça va les ruiner. Bon, ça va surtout générer une innovation technique vertigineuse. Hein, je les vois déjà. Non, mais je sais, hein, je les connais. Ils y sont. Et en fait, ils y travaillent pendant ce temps-là. Bon. Donc, on prend un autre exemple. Il y a des systèmes qu'on appelle les systèmes d'autopartage. Il y en a à Strasbourg, d'ailleurs. Donc, ça permet souvent de combiner transport en commun et voiture. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez, par exemple... vous prenez le train, et puis à l'arrivée, vous prenez juste la voiture pour le dernier bout du trajet. Et puis, comme ça, vous n'achetez pas une voiture à vous, vous achetez juste une voiture donc, que vous utilisez pour faire ce petit bout. Ces systèmes d'autopartage, en fait, ils existent et ils se développent à une condition, c'est que le parking soit limité. C'est que ce soit difficile d'utiliser sa propre voiture en ville. Hein. Par exemple, ça s'est développé d'une manière fulgurante en Suisse, parce qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup de place pour les parkings. C'est comme ça. L'espace est resserré. Mais le nombre de places de parking, ça se réglemente. Enfin, je veux dire, c'est objet de réglementation. Même l'activité agricole, qui génère beaucoup de gaz à effet de serre, elle pourrait en générer moins si des normes internationales, je veux dire, ne mettaient pas les agriculteurs hors marché s'ils avaient une agriculture moins productrice de gaz à effet de serre. Mais il faut que ce soit des normes internationales, sinon, évidemment... c'est pas tenable. Bon, voilà, tout ce que je dis de ça, c'est je pense qu'il existe des marges d'action importantes si on veut bien se donner les moyens d'imaginer d'autres alternatives. Alors moi, en tant que chercheur, je travaille là-dessus, j'aime beaucoup ça. Je travaille sur la mobilité. Bon, c'est un domaine qui n'est pas du tout neutre dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rester mobile en consommant, en produisant moins de gaz à effet de serre. Une vraie question. Alors, par ailleurs, on est tous consommateurs. Je fais attention à certaines de mes consommations, bien sûr. Mais bon, je vais prendre cette année 3 fois l'avion, ce qui est déjà, si vous voulez, si tout le monde faisait comme moi, alors là, ce serait, si vous voulez, c'est fini, quoi. Hein, je veux dire, bon. Bon, donc voilà, je veux dire, je vais en Guadeloupe pour la bonne cause, si vous voulez, mais enfin, bon, je fais quand même l'aller-retour en Guadeloupe en avion, quoi. Voilà, je tiens à vous le dire, bon, je veux dire. Donc. Pour moi, l'essentiel, c'est de faire notre possible pour rendre la Terre viable pour les générations à venir. Et ça, en tant que tel, pour moi, c'est un but super motivant. Faire ce qu'on peut, faire ce qu'on peut pour rendre la Terre vivable pour les générations à venir, c'est un objectif. Je trouve... c'est un trésor. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, je me tourne vers l'action plutôt que vers la restriction. Hein, dans toute ma manière d'approcher les choses, j'essaie de voir où est-ce qu'on peut agir. Plutôt que de savoir tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que il y a des choses que je ne fais pas, j'entends, des choses que je trouve quand même que je trouve répréhensibles. Mais je préfère vous parler de tout ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, mes restrictions, elles sont des effets secondaires de mes actions. Je renonce à faire une chose, pourquoi ? Parce que je préfère en faire une autre. Et à la base, je pense que c'est les seuls vrais renoncements, c'est ça. Hein ? On renonce parce qu'on préfère faire autre chose. Parce que renoncer en échange de rien... Ça ne dure pas très longtemps. Quoi. Alors, dernier domaine d'action dans le royaume de Dieu, construction de notre trésor par l'action, c'est travailler à des conditions de vie dignes pour les êtres humains dans le monde. Il y a un rapport avec tous les domaines, toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète, vous allez voir, mais dans ce domaine-là en particulier. Travailler à des conditions de vie dignes pour les êtres humains dans le monde. Alors, on ne peut sans doute pas régler les problèmes d'éducation, d'accès aux soins, d'alimentation, tout ça en 5 minutes. Non, pas en 5 minutes. Mais on peut déjà contribuer. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous y contribuent. On peut contribuer à faire changer ces choses au travers de la mission, au travers du SEL ou d'ONG, ou bien en nous engageant nous-mêmes. Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une sorte de peur panique de hordes virtuelles d'étrangers qui pourraient s'abattre sur l'Europe. Je pense que plutôt que d'avoir peur des étrangers ou de s'inquiéter, c'est plus conforme au plan de Dieu de nous soucier de nos prochains loin de nous qui vivent dans la misère. Et ces prochains loin de nous, aujourd'hui, on les connaît. Je veux dire, à une époque, peut-être, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, on les connaît. Et je pense que c'est plus conforme au plan de Dieu de nous soucier de nos prochains qui vivent dans la misère plutôt que de s'inquiéter de notre richesse. Les États européens dressent des barrières de plus en plus difficiles à franchir, mais, pendant ce temps-là, le terrorisme n'a pas de frontières. Et il y a un rapport, évidemment, entre les inégalités de développement et le fait que le terrorisme trouve des appuis. Les microbes n'ont pas de frontières non plus. Or, évidemment, il y a un lien entre le fait qu'il y ait des conditions sanitaires déplorables dans certains lieux du globe et le fait que certaines épidémies mondiales pourraient y voir le jour. Donc, que nous le voulions ou non, nous sommes dépendants des conditions de vie des personnes à l'autre bout de la planète. Vous savez, il suffit d'un élevage de poulets mal surveillé quelque part dans le monde pour que la grippe aviaire, tout d'un coup, ce soit le boom. Je veux dire, ça peut arriver, je veux dire. Une épidémie peut se déclencher dans un pays dont les conditions sanitaires sont mauvaises et ensuite elle se propage au monde entier. Plutôt que de vivre tout ça dans la crainte, eh bien, je trouve qu'il vaut mieux agir à notre mesure. À notre mesure. Voilà ce que j'appelle agir dans le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là, pour moi, sont des trésors. Des trésors au sens où ce sont des choses auxquelles j'ai envie de me consacrer. J'ai envie de me consacrer à ces choses-là. Ce sont des buts motivants. Et je suis prêt, du coup, évidemment, il y a des tas de choses du coup qui m'intéressent beaucoup moins, qui pourraient m'intéresser si j'avais rien d'autre à faire, mais j'ai ces choses-là à faire. Et ça, je trouve ça motivant. Alors, est-ce que ces formes d'action, elles sont sûres de marcher? Est-ce que ça va marcher, tout ça? Non, pas forcément. Il y a évidemment des frustrations dans l'action, et même dans l'action faite pour Dieu. Mais je pense qu'il y a une nourriture qui vaut mieux que l'amas de richesses et de fausses sécurités qui nous précipite dans l'inquiétude sans fin. Et bien, j'aime bien, de ce point de vue-là, ce qui se trouve dans la deuxième partie du livre de l'Ecclésiaste. En fait, l'Ecclésiaste passe tout le début, là, il se lamente sur tout ce qui ne va pas. Mais dans la deuxième partie du livre, il y a autre chose qui émerge, c'est qu'il se tourne vers l'action. Et là, on entend autre chose. On entend un discours qui est autre que juste une lamentation. Et par exemple, bon, ça c'est le chapitre 11, « Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Qui observe le vent ne sème pas. Qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital, comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne peux pas connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. Le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité, celle qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes. » Il y a là, évidemment, une incertitude radicale, quand même. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on agit qu'on échappe à cette incertitude. On est toujours dans l'incertitude. Le monde est toujours incertain, et même notre action et ses effets sont incertains. Donc suivre Christ dans un monde incertain, c'est pas échapper à cette incertitude, mais c'est vivre cette incertitude différemment. Quand je jette mon pain, ce qui est le propre de l'action, on agit, puis après, les autres s'en emparent. Quand je jette mon pain, j'admets qu'il puisse se perdre. Et ça ne me dérange pas tant que cela. Au moins, j'ai fait ce que je pouvais. Et si je peux user d'un paradoxe, je dirais que jeter son pain, c'est trouver sa vraie nourriture. Jeter son pain, c'est trouver sa vraie nourriture. Agir pour le royaume de Dieu, ça peut être perdre une partie de son pain. Mais c'est trouver la vie. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et, dans sa joie, il va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Apprenons à demeurer dans cette joie. Amen.